Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je fasse des tests unitaires? Non mais attends, c'est ça qu'on t'apprend à l'école? Bon, attends, moi ça fait 30 ans que je fais du développement de tête. 30 ans, tu m'entends? Alors c'est pour aujourd'hui que je vais commencer à mettre à faire tes tests de la Terre là. Moi mon code il marche. Hein, et tu dois apprendre déjà à faire du bon code, puis on verra après. Hein. Allez, ciao!
Et René, là, tu m'en mets une pinte, là, s'il te plaît. Et mets-moi canal, là, il y a le Grand Prix qui va commencer. Là.
Si je reprends ce que nous dit Wikipédia sur les tests unitaires, ce sont des procédures permettant de vérifier le bon fonctionnement d'une partie précise d'un logiciel. Ils ont souvent été considérés comme des tâches secondaires, mais des méthodes comme le TDD ou l'XP les ont remis au centre de l'activité de la programmation. Tout un programme. Alors dans cet épisode, nous allons essayer de démystifier les tests unitaires, de voir les bonnes pratiques et les bons outils qui, je l'espère, vous réconcilieront avec eux. Alors plus que jamais, montez le son et rendez-vous au premier pull request.
Bien, et ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui fâche chez un certain nombre de développeurs, c'est-à-dire les tests unitaires. C'est vrai que c'est quelque chose qui est normalement obligatoire à l'intérieur de tous ces projets, mais c'est très souvent qu'on voit des projets sans le moindre test unitaire. Et pour nous parler de tout ça, je reçois donc aujourd'hui Jérémy Janson. Bonjour.
Bonjour.
Donc Microsoft MVP, catégorie développeur technologie depuis 2010, et auteur du blog Bugs Hunter, c'est moi qui suis bugué, bugshunter.net. Je reçois également Christophe Momer, bonjour.
Hello.
Donc Microsoft MVP depuis l'an dernier, depuis 2022, développeur technologie, freelance et auteur du site de e-learning hts-learning. Et animateur d'une excellente chaîne YouTube et auteur de plusieurs livres sur C Sharp, Docker, Blazor et j'en passe. Et d'ailleurs, Christophe a fait il n'y a pas très longtemps une nouvelle vidéo sur YouTube sur .NET 8. Donc par rapport à l'épisode précédent où Laurent nous avait présenté les éléments de .NET 8, on avait abordé ça pendant 10 minutes. Là, Christophe, il fait ça pendant plus d'une demi-heure. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube. Je reçois donc également Laurent Campé, bonjour.
Salut Richard, salut tout le monde.
Donc Microsoft MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team leader et distinguished solution architect chez Inoveo. Et enfin, Gérald Debarré, bonjour.
Salut.
Microsoft MVP, catégorie développeur technologie depuis 2020 et auteur du blog maisiantout.net. Avec plein de posts ces temps-ci. Il y en aura, et d'après ce qu'il nous a dit en offline avant, il y en aura plein jusqu'au mois de juin.
Juillet.
Donc, concernant les tests unitaires, la première chose qu'on peut se demander, à quoi ça sert et pourquoi il faut à tout prix en avoir dans ces projets. Christophe, tu veux nous parler un petit peu de ça?
Allez, c'est parti. Bah en fait, moi, quand je parle du sujet des tests, je pose souvent une question à l'audience. Là, c'est est-ce que tu te sentirais en sécurité d'acheter une bagnole qui a jamais passé un crash test? Ou est-ce que tu te sentirais de monter dans un avion qui a jamais été révisé? Parce qu'en fait, la notion de test, on l'a tous les jours dans la vie sans s'en rendre compte. Et c'est assez paradoxal qu'en informatique, on est les seuls qui peuvent se permettre de créer des trucs qui marchent pas ou pas très bien ou qui au bout d'un moment changent de comportement sans que ça ait d'incidence. Enfin, je vois mal un chirurgien pouvoir dire « je me suis trompé, tant pis, allez, envoyer le corps à la morgue ». Il y a peut-être qu'ils le font, mais en tout cas, voilà. Donc, avec les tests, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va sécuriser notre base de code. Et là, en fait, il y a deux écoles, j'irais même presque à dire presque deux églises, tellement il y a des gens qui sont à fond là-dedans, surtout si vous êtes un peu sur LinkedIn et vous voyez des posts de Michael Azera, des trucs comme ça. Il y a ceux qui font du test juste pour couvrir leur code avec une base qualité et ceux qui font du test comme un système de design et de création de code. Moi, perso, je suis plus de cette deuxième école, à savoir que je vais me servir des tests non seulement pour augmenter la qualité de mon code naturellement, mais surtout pour créer une vraie structure qui va me permettre de, d'avoir un feedback ultra rapide sur mon code et de faire du design de code, en fait. C'est-à-dire que ça va me permettre d'aller trouver l'algo le plus optimal de la façon la plus légère possible par le biais du TDD, en fait, Test Driven Development, qui est un mot qui est un peu, des fois, un peu galvaudé parce que certains voient ça comme juste j'écris un test pour couvrir mon code et avoir des indicateurs partout, et c'est très bien, et je dois avoir 50 tests sur ma fonction. Donc il faut vraiment servir de ça comme un outil, en fait, dans ta toolbox pour structurer un bon code. Et naturellement, en fait, un effet positif, un side effect positif du TDD, c'est d'avoir du code, code qui teste, en fait, automatiquement votre production. Parce qu'après, on a d'autres types de tests unitaires. Donc là, aujourd'hui, on va rester vraiment sur le focus unitaire. Et pareil, un des trucs aussi que j'ai tendance à dire, c'est que unitaire, il ne faut pas le voir comme une unité de code technique, genre une fonction. Mais il faut le voir comme une unité de code business. Je vais tester une feature. Et même si ça doit traverser plusieurs classes, le but, c'est vraiment de tester une feature et que le test aussi va me servir de documentation. Voilà, grosso modo, ce que j'essaie de dire, moi, sur la partie test unitaire. Donc, j'espère que ça va ouvrir les débats et qu'on aura des échanges intéressants là-dessus.
Laurent, toi, au niveau des tests unitaires dans ta société ?
Ouais, moi, je suis aussi un grand fan de ça parce qu'on a un logiciel qu'on maintient depuis... des années et des années, qu'on a fait évoluer quasiment, ça fait quand même une quinzaine d'années, je sais plus, maintenant, il faudrait que je calcule. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le fait d'avoir des tests et des tests unitaires, même si certains développeurs, quand ils n'ont pas trop l'habitude des outils de refactoring et ce genre de choses, ont un peu des fois des tendances à dire « Ah, mais le test, ça me ralentit » ou des choses comme ça, ça prouve que sur la durée d'un projet, dans ce nombre d'années-là, ça aide à maintenir un certain niveau de qualité, ça aide à maintenir une certaine architecture, comme Christophe le disait, parce que c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de voir certaines choses, de consommer ton API ou ton module, ou pas forcément ta classe, comme il l'expliquait. Et c'est vraiment quelque chose qui nous permet de garder une certaine qualité dans le code et dans tout ce qui est l'assurance qualité, ce genre de choses, où on a très peu de bugs. Je crois l'année dernière, on a eu 5 bugs bloquants pour nos utilisateurs, quoi. Ce qui est rien, quasiment, quoi. Et donc, ouais, je crois qu'on va avoir plus de 45 000 tests qui tournent sur chaque... feature branch, sur chaque release branch. Voilà, donc avec un code coverage, je crois, de 86%, quelque chose comme ça, sur l'applicatif. Donc ouais, les tests, pour moi, c'est fondamental.
Alors c'est vrai que ce que disait Christophe au début, il y a deux églises au niveau des tests unitaires. Il y a ceux où on teste des fonctionnalités, etc. Et puis après, il y a ceux qui se servent des tests pour véritablement designer son application. Donc de partir du test unitaire avant de coder véritablement sa classe, quoi. C'est ce qu'on appelle il y a le TDD, TDD, test domain driven. Il y a aussi une autre méthode, je ne sais plus laquelle, qui est un petit peu inspirée dans le même genre.
Il doit sûrement parler du BDD, mais c'est... Non. Mais c'est behavior-driven development, parce qu'en c'est la même chose, sauf qu'en fait, au lieu d'utiliser du code, tu vas utiliser un langage qui respecte une certaine syntaxe, parce que tu pourras écrire tes specs en bon français ou en bon anglais, en langage plus naturel. Par contre, il y a un effet pervers à ça, c'est que généralement, on se sert du BDD en disant « Tiens, c'est cool, tu peux écrire, si je fais ça, j'obtiens tel résultat. » Et en fait, quand tu te dis « C'est parfait, je vais donner ça à mes product owners, comme ça, ils vont écrire les specs. » Et qu'est-ce que fait le product owner ? J'ai testé, hein. Quand je clique sur le bouton en haut à droite qui est rond et pas carré, attention, et il a un fond bleu, j'ai une pop-up qui s'ouvre qui me demande de cliquer sur OK. Mais en fait, ça, c'est un détail d'implémentation que tu me dis. C'est que quand tu veux valider le formulaire, tu veux qu'il y ait une confirmation. C'est ça, en fait, l'essence même de ce que tu veux comme feature. Et c'est un peu l'effet pervers du BDD, c'est que les gens ont tendance à aller trop vite dans le détail d'implémentation. Donc, moi, perso, je n'utilise plus, en fait, à cause de ça.
Ouais, nous, on avait ça un peu pour la UI aussi au début. C'est espèce d'autre niveau au-dessus de test, quoi. Et puis on a aussi arrêté pour à peu près les mêmes raisons, quoi. Donc, c'est intéressant de
quand
voir
je vous
qu'on a
écoute,
la même expérience.
ouais, j'ai l'impression qu'il y a une méthode qu'il faut arrêter finalement. C'est une méthode bien française. C'est le TCD. Pour tester, c'est douter, non?
Ah non, cette phrase, je peux plus l'entendre. Franchement, je
Il y a un
tellement
poster
con
là-dessus.
et nul, je suis désolé.
Il y a un poster, quoi. Moi, j'avais un collègue qui avait mis ce poster derrière son bureau. Ça me donnait envie, quand je rentrais dans la pièce, de lui lancer l'écran à la tête, en fait.
Ah, pareil. J'aurais la même réaction, je pense.
devdevdev.net Richard Clark.
Bien, maintenant qu'on est un peu décidé à faire les tests unitaires, la première chose qu'il va falloir décider, c'est justement quel framework utiliser. Alors, quand on ouvre Visual Studio, on a par défaut, c'est le framework de MS Test qui est là pour lancer ces différents tests unitaires. Je sais qu'il est souvent décrié, qu'il y en a d'autres, de type NUnit ou XUnit, je ne sais pas s'il y en a encore d'autres. Quelles sont les différences entre ces différents frameworks? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Jérémy, tu veux nous en parler?
Bah écoute, moi j'ai beaucoup de mal avec cette question justement les avantages et les inconvénients de chacun. Non, mais c'est vrai que tu la poses bien et c'est pile poil l'intro que je voulais avoir. C'est du rêve. Non, mais en fait, MS Test, il a une mauvaise pub, XUnit, il y a une très bonne pub, NUnit aussi ont des très bonnes pubs. Et en fait, on oublie qu'un framework de test, c'est un peu comme le disait Christophe et comme le disait Laurent tout à l'heure. Enfin, on a des besoins fonctionnels. Et ben nos tests, en fait, ils sont là pour répondre aussi à nos besoins, nous, en tant que développeurs, en termes de fonctionnalité. Je suis comme tout le monde, je suis tombé dans MS Test tout début. Je suis aussi comme beaucoup de développeurs, j'étais réfractaire au test. MS Test m'a pas, comment dire, m'a pas fait froid dans le dos, il m'a pas non plus encouragé à faire des tests. Bon voilà, c'est un framework de test. XUnit et NUnit, c'est deux frameworks que moi je, comment dire, j'ai pas utilisé NUnit en production. Je me suis beaucoup amusé à le découvrir. Finalement, j'ai fini sur XUnit pour des raisons assez simples. Oui, NUnit, effectivement, comme le met dans le chat Laurent, NUnit est encore plus vieux que MS Test. Mais moi j'ai un gros problème par rapport aux âges des produits. Par exemple, MS Test, pour la petite parenthèse, les gens vont toujours le critiquer alors qu'en fait ils oublient qu'il y a un exécutable en fait, qui lance nos tests qui s'appelle mstest.exe. Quand on fait du DevOps et qu'on est pas mal sur un serveur de build et qu'on fait attention à ce qui tourne sur le serveur, enfin, le process s'appelle quand même MS Test, qui n'a rien à voir avec le framework MS Test. Donc c'est assez difficile de se retrouver quand on cherche de la doc, quand on cherche des informations sur différents produits. Moi, je vais expliquer finalement pourquoi j'ai fini par tourner sur XUnit. La première raison, elle est bête. J'ai eu un problème un jour avec MS Test, qui est un problème simple. C'est que l'outil, en fait, me pourrissait mes statistiques en termes de couverture de code. Il se trouve que dans MS Test, il y a une fonctionnalité qui n'est pas forcément utilisée par tout le monde, qui tourne autour des attributs, comme tout MS Test. Tout MS Test tourne autour d'attributs, et entre autres, les fameuses méthodes de test qui doivent déclencher des exceptions. Et en fait, il y a un petit souci avec ces méthodes de test, c'est qu'en fait, la méthode ne va jamais au bout. Elle est effectivement capturée par le framework de test, et elle n'atteint jamais la fin, en fait, puisque la dernière méthode va déclencher la fameuse exception. Donc, il y a toujours une portion de code en fait, qui n'est jamais exécutée. Donc, quand vous regardez vos statistiques, vous faites attention à vos statistiques de couverture de code, vous vous rendez compte que finalement, vous avez des tests unitaires qui ne sont pas couverts à 100% eux-mêmes. Ça fait carrément bizarre la première fois que vous tombez sur les chiffres. Donc, moi, je me suis retrouvé finalement à abandonner MS Test à cause de ça. Et puis, il se trouve qu'en parallèle, j'ai découvert une fonctionnalité qui est possible avec XUnit, qui porte très mal son nom. Je suis désolé, c'est ce qu'on appelle les tests d'intégration ASP.NET. C'est une fonctionnalité qui, pour moi, a été le game changer qui a fait que XUnit est passé tout en haut de ma liste des frameworks de test. Ça permet de faire quoi? On va aller un petit peu en profondeur de la bête. L'objectif, en fait, quand on travaille avec ces catégories de tests qui sont possibles avec XUnit, ça va être de gérer tout ce qui va être test d'une application web. Quand j'ai une application web, c'est aujourd'hui tout ce qui est ASP.NET Core. Donc ça va être de la Web API, ça va être du Blazor, ça va être des pages, du Razor Page, toutes les technos finalement qu'on a aujourd'hui qui tournent avec du .NET Core dans une application ASP.NET vont pouvoir être stables avec cet outil. Alors la librairie, elle porte un petit nom un petit peu barbare. Elle s'appelle Microsoft ASP.NET Core.mvc.testing. Et c'est cette petite librairie qui va nous permettre en fait de tester tous nos contrôleurs. Alors quand je dis tester tous nos contrôleurs, c'est là que j'aime cette approche. On ne va pas directement appeler la classe du contrôleur. On va dire, je lance mon petit framework de test et je tape l'URL style, par exemple, localhost slash about. Et je vais voir exactement ce qui se passe quand je demande de naviguer sur ma page about. S'il y a une exception qui est déclenchée, on va l'avoir tout de suite. Et c'est assez sympathique. La partie qui moi, me dérange par rapport à cette dénomination de test d'intégration, c'est quand vous y regardez, je vous donne l'exemple, vous tapez le slash about, on va taper des contrôleurs, on va taper de la web API, c'est pas à proprement parler des tests d'intégration. C'est ça qui me dérange un petit peu. Je vois dans le chat, parce qu'on a un chat, alors c'est pas facile effectivement à partager sur le podcast, mais on est effectivement sur un sujet, on peut penser que ça bifurque, alors qu'en fait, ce qu'ils ont appelé test d'intégration, c'est pas du tout de l'intégration. Et c'est ça qui me choque en fait dans la terminologie, c'est qu'on va effectivement tester des URL, mais on va plus s'assurer que tout ce qui va être, on va dire, la partie fonctionnelle qui nous est fournie aujourd'hui par ASP.NET est opérationnelle. Ça porte mal son nom parce qu'en fait, on appelle ça test d'intégration, mais on va pouvoir substituer tous les composants. On va prendre un exemple, vous avez une API qui doit vous retourner une liste d'utilisateurs. Si vous avez un framework d'injection, qu'on a tous finalement sur l'ASP.NET, vous allez injecter un service qui va fournir la liste d'utilisateurs. Et celui-ci, vous allez pouvoir l'injecter dans ce fameux framework qui s'appelle malheureusement ASP.NET Core MVC Testing pour l'intégration. C'est là que le nom il n'est pas bon. Effectivement, je suis d'accord là-dessus. Si je comprends que tout le monde soit un peu choqué par cette terminologie, moi ça m'a choqué. Le truc qui est sympa aussi avec cette solution qui elle est sympathique pour nous en tant que développeurs, c'est qu'on va pouvoir tester tout ce qui va être service qu'on injecte pour l'authentification. La seule limite, c'est qu'on ne peut pas tester tout ce qui va être authentification Windows parce que finalement, c'est la partie qu'on peut pas injecter. Donc, c'est une partie qui est assez sympa. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce framework que je ne couvre pas parce qu'il y a tellement de fonctionnalités dans cette petite partie de test d'intégration pour ASP.NET que c'est très, très difficile de faire tout le tour.
Je pense que ça serait bien de définir ce qu'on entend tous par test unitaire. Ça, Christophe en a parlé, mais test d'intégration. Parce que je pense qu'on a peut-être une définition un peu différente.
Là on n'est pas sur ce framework. C'est là que je suis choqué, c'est qu'on n'est pas du tout sur des tests d'intégration. On est vraiment sur du test unitaire pour tester une partie de code et voir son fonctionnement dans un contexte établi qu'on fait évoluer. Moi, je classe au niveau test d'intégration vraiment l'exécution d'une batterie de tests, souvent automatisée aussi sur les serveurs à côté, qui eux vont vérifier que sur nos serveurs, quand c'est déployé, l'ensemble de la chaîne fonctionne. Moi, c'est ma définition aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde a la même.
Bah moi, là, ce que tu viens de dire, moi, ça arrive sur du end-to-end, en fait. C'est que dans la pyramide que j'ai au niveau des tests, l'unitaire, c'est une fonctionnalité qui est isolée où les dépendances sont abstraites et donc simulées. Et en fait, là où ce que moi, je qualifie les tests avec ASP.NET Core Testing en intégration, c'est parce que, un exemple tout bête, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que tu as le moteur d'injection de dépendance. Ouais. Tu peux remplacer les services, mais tu as l'injection de dépendance. Ce qui veut dire que tu n'as pas simulé l'injection de dépendance. Tu vas injecter en fait des mocks dans le moteur d'injection de dépendance au lieu de simuler leur comportement. Donc, tu es dans une frontière. Certes, je peux être d'accord avec toi sur la partie ouais, c'est unitaire parce que je peux simuler mes services, mais du fait que tu utilises le moteur d'injection de dépendance plus le serveur Kestrel qui va tourner en arrière-plan et qui va servir ta requête HTTP d'une certaine façon qui est simulée et que tu vas du coup utiliser d'ailleurs un HTTP client qui t'est fourni par le MVC testing et donc faire une vraie requête en bonne et due forme, c'est de l'intégration avec des services tiers qui ne sont pas totalement abstraits. C'est là en fait que moi je mets la différence et que, à mon avis, on a une différence de terminologie entre nos deux explications. Donc si je suis ta terminologie et ton idée, oui, tu es encore dans l'unitaire. Si je me rapproche de ce que je viens de dire, je suis dans l'intégration.
Moi, je m'en fous de la terminologie. J'ai juste envie d'écrire un test qui apporte de la valeur, en fait. S'il est unitaire, tant mieux. Enfin, si on a une définition unitaire pour certains, très bien. Si on a intégration pour d'autres, très bien. Sans que moi, ça m'apporte de la valeur que j'ai envie qu'il m'apporte ce test-là, la terminologie est peu importante en vrai. Et ouais, si je suis un peu border sur une frontière entre deux catégories pour certains.
Ouais, bah, par contre, la catégorie de ton test va définir là où tu l'exécutes et comment tu l'exécutes. Parce que bah, typiquement, un test d'intégration, c'est plus long à exécuter. Donc, il ne devrait pas être dans un pipeline de CI, mais plutôt un pipeline de release avant la release en preview, par exemple.
Ouais, ou night
bah, to c'est ta définition qui dit que c'est long à exécuter, mais t'en sais rien en fait. Si moi, mon application, c'est un exé qui est super court à lancer et que ça me prend vraiment une seconde de lancer mon test et que j'en ai 20, mais que 20 me suffisent, c'est pas important en fait. J'ai la valeur que j'ai envie d'avoir, quoi.
Ouais, un élément qui est à mi-chemin entre ce que vous dites tous deux, Gérald et Christophe, c'est moi par exemple, j'utilise beaucoup cette librairie qui porte très mal son nom en termes d'intégration. Par exemple, pour vérifier qu'effectivement mes contrôleurs vont me fournir ce que j'attends en termes de navigation, que si j'ai des règles fonctionnelles qui ont été établies par rapport à la navigation avec des redirections, des règles métiers et autres, ça fonctionne aussi. Sans être, comment dire, en train de tester une classe en particulier. Pourquoi ? Parce que des fois, on dépend de framework qu'on ne teste pas. Et quand je fais des montées des versions, en fait, ces tests, pour moi, sont vitaux, sont à mi-chemin, effectivement, entre du CI et puis vraiment la partie du end-to-end. C'est à mi-chemin entre les deux. Et souvent, je me retrouve dans une situation en plus où je rajoute des tests et je me sers souvent de cette plateforme-là pour tester mes clients, puisque je fournis souvent des librairies sur lesquelles je fournis les clients pour la web API. Et je me retrouve effectivement à coder mes tests unitaires ou dans ma batterie de tests unitaires, je vais avoir des tests qui vont me permettre de tester mon serveur et mon client en même temps.
Après, la problématique, c'est quand on travaille en équipe, c'est que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on doit, tester, quoi.
Exactement. Je pense que même dans ce qu'expliquait Christophe avant sur les tester plus au niveau business, il y a des gens qui parlent de tests d'intégration aussi pour ce genre de choses, tu vois, et qui pour eux, un test unitaire, c'est un test automatiquement d'une classe. Je ne suis pas d'accord, mais à la fin, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est, je pense, d'avoir des tests qui vont nous couvrir sur la qualité du produit, qui nous servent à nous et qui nous servent dans le temps aussi, quoi. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir des noms pour qu'on sache tous, quand on est dans la même équipe, de quoi on parle, quoi. Ouais. C'est aussi important de savoir où on va faire tourner certains tests et certains autres tests. Mais je pense qu'il ne faut pas être non plus trop à cheval sur tout ça, quoi.
Alors, pour revenir avec les différents frameworks, c'est quoi quand même les grandes différences entre NUnit, XUnit et...
Alors, pour revenir aux grandes différences, c'est vrai que les grandes différences, si on reprend... Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver une vraie différence entre XUnit et NUnit. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont plus de retours sur NUnit, mais on est sur des frameworks qui sont des frameworks très peu verbeux, finalement, contrairement à MS-Test qui demande de connaître beaucoup d'attributs, donc... MS-Test, c'est vrai qu'il nous demande de connaître beaucoup d'attributs pour savoir comment initialiser nos tests, qu'il nous demande beaucoup d'attributs pour savoir comment qualifier les tests, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à connaître. XUnit, c'est vrai qu'on connaît deux attributs, et puis c'est parti. Hein. On a besoin de connaître fact pour juste avoir la simple méthode void qui fait trois fois rien sans argument. La théorie pour effectivement jouer avec ensuite le deuxième attribut qui s'appelle le inline data, avec lequel on va pouvoir rajouter des données et démultiplier les tests finalement. On va pouvoir se retrouver avec un test qui va avoir 2-3 arguments et puis on va injecter les paramètres, même si le terme n'est pas bon, avec le inline data. Et on va se retrouver que des tests sur lesquels on va avoir assez peu de code finalement et on va augmenter très très rapidement le test. Alors, moi, ce qui me dérange un petit peu dans ces pratiques, par exemple avec le inline to data, c'est qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle type CodeAnalysis pour dire. Allez, on essaie de limiter le inline to data pour ne pas en avoir plus de 3 par test. Moi, par exemple, c'est un de mes avis. Hein. Quand je tombe sur un test qui a 5, 6, 10 de ses attributs, je me dis, ça y est, ça commence à sentir mauvais. Sur un unit, je ne sais pas, à ma connaissance, on a à peu près le même genre de capacité. Laurent, tu as peut-être toi plus utilisé.
Bah, moi, un unit, je l'utilise depuis en fait, le début du produit. Franchement, j'ai jamais vraiment regardé MS-Test. Quand c'est arrivé, j'ai regardé un petit peu. Ça me... Après, j'ai vu qu'il y a une tendance .NET Core. Quand .NET Core est apparu, comme les gens de Microsoft ont choisi XUnit, il y a beaucoup de gens qui ont pris XUnit, j'ai l'impression, à cause de ça. Nous, ça n'a pas été la tendance parce que NUnit nous sert bien depuis des années et des années. On n'a jamais vu le besoin de changement. Alors, on a eu certains changements dans la façon d'exprimer les assertions, par exemple. Je me rappelle qu'au début, Il y avait, on utilisait, parce qu'il n'y avait que cette notation, assert, par exemple, assert is true, avec, tu ne savais jamais quel paramètre devait être le premier et le deuxième, il fallait regarder la doc. Donc, on est, quand ils sont arrivés avec le assert date, on a utilisé justement des outils pour refactorer toute la code base, pour migrer en fait ces assertions dans un truc qui est un peu plus lisible, quoi. Après, il y a encore d'autres outils comme Fluent Assertion qui
alors, permettent justement, de faire ça. Fluent Assertion, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est la Rolls.
On verra les outils mais je voudrais qu'on reste quand même sur les frameworks.
Ah, donc, moi je ne peux pas vraiment comparer parce que je n'ai pas vraiment investi de temps. Je trouvais ça un peu bizarre le fac de XNUnit au départ. Et puis finalement, comme NUnit m'a toujours bien servi, je suis resté sur NUnit en fait.
Il ouais, faut savoir que les deux, NUnit et XUnit, font partie de la .NET Foundation et sont donc deux projets qui sont open source. Hein.
Ouais. Par contre, moi, y a un argument que j'ai trouvé pour XUnit que je trouve qui dessert beaucoup, c'est qu'à chaque fois, on dit qu'il est effectivement très, très rapide, qu'il fait du parallélisme, ainsi de suite. À ma connaissance, aujourd'hui, je crois qu'on a la même chose avec du MS Test. Et il y a aussi un autre argument qui est toujours présenté en faveur de XUnit, c'est cette notion de moins verbeux. Quand on avance beaucoup avec XUnit, on va se retrouver à un moment à avoir, par exemple, des tests avec des besoins d'avoir des ressources qui soient communes aux différents tests et d'avoir effectivement des classes qui partagent beaucoup d'éléments. Et là, on va se retrouver avec des parties très verbeuses, à avoir implémenté une interface qui s'appelle e-collection fixtures. On va avoir à définir des attributs collection définition. C'est des choses qui ne sont pas forcément très joyeuses. Les premières fois qu'on les manipule, c'est pas très facile. Donc l'argument du côté, on va dire, XUnit, très peu verbeux, très simple, quand on a vraiment envie d'entrer dedans, il y a un moment où on va être confronté à ça, ça pas... Enfin, je trouve que c'est pas forcément folichon.
Alors, on va faire un petit sondage. Oui, tu voulais rajouter ?
Non, juste pour dire, au niveau des perfs et de la parallélisation, là, nous, c'est vrai, comme je disais, là, je venais juste de regarder sur notre build server, donc on a en prod, au jour d'aujourd'hui, on a quasiment 46 000 tests. Vous avez une idée de... Bon, c'est une application WPF. D'après vous, il faut combien de temps pour faire tourner tous ces tests?
Ça dépend ce qu'ils font. Hein. Ça peut être 2 minutes, ça peut être 3 heures. Hein.
Mais généralement, quand tu dis autant de tests, nous, donc ça prend 3 minutes 30. Donc, évidemment, il y a ce qu'on fait tourner dans les tests. Il y a aussi cette idée de parallélisation. Donc ça c'est utilisé massivement. Bien sûr, il y a le contenu des tests, mais 46 000 tests en 3 minutes 30, ouais, c'est assez cool. Rapide. Quoi.
Pour la petite histoire donc, drôle, la première expérience que j'ai faite en tant que salarié, ils avaient environ 9 fois moins de tests. Par contre, vu que c'était des tests quasiment end-to-end dans la façon dont ils testaient, ils faisaient tourner ça la nuit pendant 8 heures. Ça générait un rapport le lendemain. Alors... Et avec le rapport, ils tapaient sur les devs qui avaient fait le code qui ne passait pas.
Ouais. D'où l'importance d'avoir un build system et des tests qui sont exécutés rapidement et de justement avoir différents niveaux de tests.
Un petit sondage, Gérald, toi tu utilises quoi?
En fait, moi je connais un peu les trois. On a des projets, enfin j'ai des projets, alors je crois que j'ai plus d'MS Test maintenant, enfin MS Test V2, hein, parce que MS Test il y a la V1 et il y a la V2 depuis que c'est encore là. Ils ont migré, ils ont un peu modernisé la solution pour que ce soit à peu près pareil que les autres en vrai. Mais ouais, non, moi c'est plutôt XUnit en vrai actuellement.
Laurent,
moi c'est, comme j'ai dit, c'est NUnit.
NUnit.
De façon historique.
Un partout. Et Christophe?
Comme Gérald, en fait, j'ai utilisé les trois dans mon expérience, mais aujourd'hui, si j'ai mon framework de prédilection, c'est XUnit.
XUnit. Et donc Jérémy. Jérôme, il n'est pas là.
C'est XUnit. Par contre, j'ai oublié un petit argument parce que moi, XUnit, j'ai découvert il n'y a pas longtemps une petite chose qui est assez surprenante, que je n'ai pas réussi à refaire avec les autres. J'ai pondu un petit article là-dessus. C'est que, surtout des fois, dans la situation, on a des projets avec des méthodes ou des classes internes et on va les utiliser dans le projet de test. Et il se trouve qu'avec XUnit, on est en mesure, c'est très mal documenté, d'ailleurs, je ne crois pas que ça le soit, de mettre une de ces méthodes comme étant interne, elle va s'exécuter alors qu'elle va avoir un argument des classes qui sont internes.
Oui, ce qu'on peut faire avec, MS Test d'ailleurs.
Alors avec MS Test, je ne sais pas. Moi, à ma connaissance, on ne peut pas avec la V2.
Oui.
C'est que des belles évolutions aussi. Mais après, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, je ne connaissais pas, c'était une surprise. Une bonne pour une fois.
Je suis pas sûr de comprendre parce que il y a la possibilité de déclarer les assemblées visibles.
Ouais, quand tu regardes ta documentation, ouais, ta documentation dit qu'un test unitaire doit être public. Ta méthode de test unitaire doit être publique. En fait, il se trouve que elle, quand tu vas lui passer en argument un élément qui est interne, donc qui appartient en plus à une autre librairie que toi tu as le droit de voir dans ta dans ton projet de test unitaire. Donc ça, ça pose pas de problème à faire. Hein. Techniquement, c'est très facile à faire aujourd'hui. Beaucoup simple au début de .NET Framework, heureusement, on se retrouve quand même dans la situation où on met une méthode techniquement publique et on dit on va mettre quelque chose d'interne. On n'a pas le droit de faire ça. Donc là, on la rend interne et de manière assez drôle, effectivement, l'exécutable de mestest.exe va s'amuser, il va nous lancer ça avec XUnit et nous exécuter ce test qui est interne pourtant. La doc, elle ne dit pas du tout ça dans XUnit. Hein.
D'accord.
Ok. Donc,
après, tu pourrais parler un peu de différence quand même, parce qu'il y a quand même des différences fondamentales entre les trois dans l'approche. Toi, par exemple, XUnit va fournir beaucoup d'attributs pour gérer plein de cas différents, genre tu veux mettre des timeouts, tu veux faire des retries, des choses comme ça. Je crois que tout ça, c'est un peu built-in, tu vois. Donc, ils viennent avec beaucoup de choses toutes prêtes à usage. Là où, par exemple, XUnit, ils viennent avec quelque chose de plus léger, mais te laisse la possibilité de remplacer ce que tu veux, en fait. Tu veux remplacer le moteur d'exécution de XUnit, tu as la main pour le faire. Donc, c'est une approche un peu différente à ce niveau-là. Après, chacun ses goûts, hein, tout comme toujours. MS Test, bon, pareil, ils ont recopié un peu ce que XUnit faisait. Là, il y a plein d'attributs, il y a plein de choses. Il y a un peu trop, à mon avis, qui sont obligatoires, mais ça, c'est un détail, quoi. Sinon, en termes de fonctionnalité, c'est toujours les mêmes.
Hein. Ouais.
L'autre truc à noter, peut-être l'info là, qui est sortie il y a quelques semaines, c'est qu'un des plus gros ou un des auteurs les plus vieux de XUnit arrête. Je crois que ça faisait 20 ans qu'il bossait dessus ou quelque chose comme ça. Peut-être pas 20 ans.
Il part à la retraite.
Il a arrêté de participer au projet open source.
Avec un choix très bizarre d'ailleurs, parce qu'il voulait rajouter une méthode dans les asserts, là, ce que j'ai vu, dans l'issue qu'ils avaient ouverte, là, ils voulaient pouvoir faire un assert point un truc. Ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils se disent que c'est une bonne idée, mais bon.
Un truc avec son nom, hein, c'est ça.
Hein. Ouais, c'est ça, un truc avec son nom, ouais. Mm. J'arrive même pas à comprendre que les gens soient OK de polluer l'IntelliSense pour rendre hommage à quelqu'un. Certes, il a fait un bon travail, mais je trouve que c'est presque gâcher son travail de faire ça, quoi. Mais bon, pas grave.
Ok, donc une fois qu'on a choisi son framework de test unitaire, après on se retrouve assez rapidement devant un certain nombre de difficultés. Tu parlais justement des injections de dépendances. Quand par exemple on a une classe et une méthode à tester qui dépend d'une autre classe, on veut la plupart du temps ne pas tester la seconde classe. Et donc pour ça, on est obligé de pouvoir moquer, enfin de pouvoir donner l'illusion qu'on utilise cette classe-là. Et pour ça, on a besoin de librairies complémentaires qui vont nous permettre de faire ces simulations. Alors je vois qu'il y a Laurent qui dit non, mais...
Non, t'as pas besoin forcément d'une librairie.
Ouais,
t'as pas besoin d'une librairie, un mock ou un stub ou un... peu importe comment ils appellent ça, t'as pas besoin forcément d'une librairie, t'as besoin juste d'avoir une abstraction que tu peux réimplémenter dans ton test et qui va simuler ce que tu veux simuler, quoi.
Oui,
donc t'as pas besoin d'avoir un framework externe pour faire ça, quoi.
Non, mais ça peut simplifier la vie quand même.
Bah, oui, après, ça peut simplifier la vie, mais ça, ou comme toutes les dépendances.
Ouais.
Ouais, non, mais Gérald, il a parfaitement raison, hein, pas forcément. Hein. Il y a des fois, ça complexifie bien les choses. Hein. Il y a des gens qui comprennent pas les différents outils. Hein. Moi, j'ai commencé un peu comme le dit Laurent, à une époque, effectivement, à avoir des classes qui étaient vraiment là pour les tests. Hein. On déclarait des objets qui portaient de la fausse donnée, de données totalement fictives, pour des tests. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir tous un framework comme MOC, MOQ, hein, qui est bien connu pour aujourd'hui faire des tests unitaires et faire un test de tout ce qui est injection. À partir du moment où on va coder une petite classe qui implémente notre interface, c'est réglé. D'ailleurs, c'est souvent là que les gens s'arrachent les cheveux avec MOC, finalement, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a besoin d'avoir une interface. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils vont avoir une classe abstraite, et puis ils vont chercher avec MOC à créer l'instance d'une classe abstraite. Bon, c'est un peu le bienvenu en enfer. Non, il y a des gens, hein, je vois Gérald qui fronce des sourcils. Moi, j'ai eu des gens qui ont cherché à faire
juste un point de départ, c'est tu parles toujours d'interface, mais il n'y a pas besoin d'interface pour moquer des. Enfin, pour remplacer les implantations. C'est une méthode virtuelle, ça peut suffire. Ouais, les gens rajoutent toujours des interfaces et font des. Est-ce qu'on pourrait faire des fichiers .h comme si on faisait du C, là ?
Alors qu'il n'y a pas besoin, quoi. Aujourd'hui,
tu peux le faire, c'est une pratique que tu vois quasiment tout le temps et les gens font tout le temps ça, mais en vrai, tu dupliques tes fichiers et tu. Pour souvent, pas grand-chose, quoi.
Alors moi, souvent, je me retrouve dans une situation où j'essaie de faire comprendre, justement, comme tu viens de le dire, en général, que l'interface, c'était pas tout le temps utile. Alors moi, je me suis même retrouvé dans une situation, c'est de faire comprendre aux gens, parce que j'ai vécu, moi, des exemples en expérience passée, où les gens voulaient coller les interfaces sur tout. Tout ce qui était, par exemple, argument ou classe qui devait porter de la donnée, en fait, portait une interface, et on ne devait surtout pas manipuler la classe qui portait de la donnée. Alors qu'on s'en fiche totalement de cette classe, elle a trois arguments. On va prendre le cas de l'utilisateur qui a un ID, qui a un username, et puis qui va avoir un name et un first name. Enfin, ce genre de choses, les gens voulaient à tout prix une interface là-dessus. C'est de la folie, hein. Je sais que ça fait sourire beaucoup de monde. Enfin, moi, je l'ai vécu. Vous développez trois fois plus lentement que les autres. Donc, je rejoins un certain nombre de personnes sur le fait que les interfaces ne sont pas utiles pour tout. Je pense qu'il faut savoir jauger. Mock, il va être sympa, mais c'est vrai qu'il y a des situations quand on a juste besoin d'avoir une méthode qui renvoie vrai, est-ce qu'on a besoin de déployer Mock et que tout ce qui va avec, quoi. C'est pas toujours évident.
Pour apprendre le concept derrière les simulacres, que ce soit des mocks, des stubs, des spies, enfin bref, n'importe quoi, je pense que le mieux, c'est de passer d'abord par une approche manuelle, parce que tu te rends compte de ce que tu fais, ce que tu veux observer, avant d'aller utiliser un framework, en fait. C'est toujours mieux de savoir comment ça se passe de façon sous-jacente avant que ce soit caché par un outil.
Exactement. Exactement.
Bah, moi, c'est ce qui fait justement qu'à un moment, Christophe, je me suis retrouvé dans une situation où je me retrouvais à utiliser une autre librairie qui s'appelle Autofixture. Je me rendais compte que je créais de manière, on va dire, plus ou moins arbitraire des instances de mes classes, mais que je pondais beaucoup de code pour faire ça. Alors qu'en fait, je voulais vraiment avoir des classes avec des arguments qui soient générés de manière totalement aléatoire. J'ai trouvé cette petite librairie Autofixture. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui l'utilise maintenant, qui a un petit côté sympathique, qui nous permet effectivement, quand on travaille entre autres avec XUnit, d'ajouter un argument supplémentaire, qui est le inline autodata, qui est en fait assez sympathique parce qu'il va se charger de nous fournir des instances de tout ce qu'on veut. Et quand je dis instances, ce n'est pas forcément des types références, on peut avoir l'entier, on peut avoir tout ce qu'on veut. C'est plutôt pratique pour vraiment avoir des tests aléatoires. Et moi, dans certaines situations, j'ai trouvé ça très sympa parce que ça m'a permis de voir que des fois, j'avais des tests unitaires qui ne passaient pas certains cas un peu tordus. Et Autofixture, c'est un petit truc qui, je sais pas, si vous utilisez, si vous connaissez.
Non, mais vas-y, qu'est-ce que ça fait exactement ?
Alors en fait, tu as deux approches sur Autofixture. Tu as la première, c'est que tu as une classe, tu déclares une instance d'Autofixture, ça déclare une instance de ce qu'ils appellent Fixtures, qui va te permettre de générer des valeurs aléatoires. Tu vas pouvoir dire, je veux récupérer un entier, te retourne un entier. Je veux récupérer une string, il te renvoie une string. Donc en fait, c'est vraiment là pour t'aider dans tes tests, et pour te décharger de toute la tâche de génération d'éléments aléatoires. Tu as par exemple la classe de l'utilisateur, comme on disait tout à l'heure, tu vas demander, génère-moi un utilisateur. Il va te générer un utilisateur avec ses propriétés entièrement peuplées, et toi tu vas pouvoir jouer avec, dans ton test, avec ces valeurs qui ont été générées de manière aléatoire, et tu vas éviter le risque, en fait, de toujours te retrouver à tester les mêmes valeurs.
En fait, t'introduis une espèce de chaos dans ton test.
Ouais. Et le côté qui est sympathique, ce que je disais, il y a cet attribut qui s'appelle inline autodata, qui lui, en fait, quand on le met sur une théorie donc de XUnit, on va se retrouver vraiment en fait l'ensemble de nos arguments qui vont être générés de manière aléatoire. Donc ça peut être très sympa, surtout quand vous allez le coupler effectivement avec des personnes qui vont tout prix faire du mock pour tester les comportements avec des objets complexes à insérer, à utiliser comme argument. Plutôt que d'avoir 10 lignes pour pondre tout ça, vous prenez Autofixtures et vous retrouvez des instances utilisables à l'exécution. C'est assez pratique.
Alors c'est marrant que tu en parles de cette lib parce que je l'avais utilisée, je l'avais recommandée, maintenant je ne la recommande plus.
Alors en fait... moi je sais pourquoi tu ne la recommandes pas, vas-y explique-le parce que je pense que ça va être vachement intéressant.
Alors du coup, moi, pourquoi est-ce que je... Un cas d'usage pour lequel je peux la recommander, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que ça te permet de tester les cas aux limites que tu n'aurais pas forcément anticipé. Parce que ça va générer des données totalement aléatoires parce qu'il n'a pas de règle de métier. Et donc du coup, forcément, il va peut-être te mettre dans un champ nom, il va peut-être te mettre 128 caractères alors que ton système en gère que 64 et puis boum, ça fait exploser ton algorithme. Pour ça, oui. Par contre, moi, je suis un fervent défenseur de quasiment pas de commentaires dans le code et les tests sont pour moi aussi un autre outil qui est, ça documente des cas d'usage business et en ça autofixture c'est juste pas possible parce qu'il va te mettre des UID dans des noms et donc c'est dégueulasse et ça la personne va pas comprendre en regardant l'objet. Donc en fait au lieu de passer par autofixture, je vais passer par du bogus ou du faker, une librairie qui va te permettre de créer des objets et d'avoir la même logique. En fait, je veux générer aléatoirement X objets ou un objet comme ça. Sauf que la différence d'autofixture, c'est qu'avec un bogus ou un faker, tu vas pouvoir configurer ton objet pour dire dans ce champ-là, il me faut le nom d'une personne. Et lui, il va te mettre une donnée qui ressemble vraiment au nom d'une personne. Et là, tu as quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un objet business tel que tu pourrais l'avoir en exploitation. Donc en fait, j'ai totalement raté aux autofixtures pour ça.
Alors, je pensais que tu allais réagir sur autre chose parce que, donc moi au début, j'ai eu la même problématique effectivement avec l'autofixtures, j'ai aussi des collègues qui sont des fans de customisation, qui ont effectivement trouvé le moyen de réinjecter le genre de comportement que tu utilises. Non, moi autofixtures, j'étais plus gêné sur une autre problématique, c'est qui va générer, à chaque fois qu'il y a des collections, des énumérations quelconques, il va toujours en mettre 3. Ça, c'est assez embêtant. Et effectivement, il faut passer par une petite logique de customisation, pour, comme tu viens de dire Christophe, par exemple pour les prénoms, les noms et autres, pouvoir dire à certains moments aussi, on génère un nombre aléatoire d'éléments dans une collection. Moi, c'est plus là qui m'a gêné, parce que cette partie-ci n'est pas du tout aléatoire. Il y a certains éléments qui sont vraiment fixés, quoi. Par contre, il a un avantage pour les développeurs, je ne sais pas si d'autres font pareil, c'est que quand ils génèrent des chaînes, entre autres, en fait, ils commencent toujours la chaîne par le nom de la propriété pour qu'on puisse y retrouver, nous, en tant que développeur, des fois, quand on a des problèmes de débogage. Donc effectivement, comme dit Christophe, il n'est pas du tout orienté fonctionnel, par contre il est très orienté technique, ce qui peut effectivement présenter des inconvénients pour les gens qui veulent du fonctionnel et un avantage pour les gens qui veulent du côté technique. Voilà pour la bête. Après, par rapport à ce que dit Christophe, moi il y a un élément sur lequel tout à l'heure avait rebondi Gérald, c'est sur la partie fonctionnelle, quand on a vraiment envie de comprendre ces tests, il y a Fluent Assertion dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, qui pour moi justement comble un petit peu ce petit défaut qu'on a dans AutoFeature, c'est que Fluent Assertion va nous faire arrêter d'utiliser cet ignoble objet assert, que beaucoup de développeurs ont du mal à comprendre d'ailleurs pourquoi je tape assert, et va permettre d'avoir une syntaxe où, il faut aimer l'anglais, hein, puisque en fait techniquement en anglais on va écrire qu'une variable doit être, ou une variable doit contenir, bon c'est vrai qu'on a une logique en tant que développeur qui s'oriente beaucoup vers l'anglais, bon c'est pas... c'est pas forcément sympa pour tout le monde, il y a des gens qui aiment pas du tout, hein. Ouais, chacun son truc. Hein. Effectivement, on a un should, be, on a plein de verbes, c'est assez drôle, c'est assez sympathique. Mais Fluent Assertion, déjà, qui utilise parmi la petite équipe là?
Bah, moi, j'ai déjà utilisé, ouais.
J'ai déjà utilisé aussi.
Ah, c'est le premier truc que j'installe et que je mets en global using d'un projet de test.
Ah bah ça, global using, maintenant, ouais, c'est la classe.
Je dois dire que franchement, j'ai fait un petit test pour voir il y a quelques années pour voir si j'arrivais à refactorer comme je l'avais fait le assert is true et assert to assert that plus les autres. Mais notre code base maintenant en nombre de tests est franchement énorme. Donc c'est un peu plus compliqué. Ça doit être faisable.
Bah, tu sais, j'ai un analyzer qui permet de convertir justement des assert x unit ou n unit en fluent assertion pour un certain nombre de syntaxes. Bien évidemment, il y a bien trop en in-unit pour que ce soit faisable. Mais ça permet d'automatiser quand même pas mal les migrations pour les gens qui veulent migrer.
D'accord. Mais pour migrer de in-unit
vers fluent assertion. Ouais.
Ok, on se reparle.
Je partage.
Tu m'intéresses.
Moi aussi, j'ai du code à migrer.
Fluent assertion analyzer, là. J'ai plus le nom du package, là, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça.
Ok. Je vais se retrouver.
Et Fluent Assertion, là, ça marche avec tous les frameworks, MSTS, NUnit, XUnit.
Tous.
Ouais.
Tous. C'est ça qui est bien. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il marche avec tous. Donc, quand on a des gens qui veulent tout préparer avec leur framework, il n'y a pas de souci. Par contre, il a des méthodes en plus qui sont assez sympathiques. Enfin, moi, il y en a une que j'apprécie particulièrement. C'est le BQLens qui permet effectivement de vérifier que deux objets sont équivalents. on va effectivement avoir une méthode pour vérifier que nos objets sont vraiment égaux, sont les mêmes, la même référence au sein de .NET quand on exécute, et vraiment vérifier que deux éléments sont égaux, mais ne sont pas des références du même objet. Ça, je trouve ça assez sympa, ça permet de régler des fois des problèmes techniques qui sont assez tordus en .NET quand les gens ne sont pas habitués à tout ce qui est passage par référence, tout ce qui est type, référence, ainsi de suite, qui débarquent dans .NET. Je trouve que c'est une méthode qui est assez sympathique pour leur faire comprendre quand ils font des erreurs ou quand ils n'en font pas. Ça, c'est assez sympa.
Ouais, bon, Assertion, il a vraiment deux avantages. Le premier, c'est effectivement de rendre tes tests totalement lisibles. Donc, en termes de doc, c'est le summum. Tu n'as pas d'assert qui traîne et tu te dis, attends, c'est quoi l'expected, c'est quoi le résultat? Tu dois lire le code et l'analyser pour le comprendre. Mais c'est surtout, comme tu disais, c'est qu'il a un panel de méthodes qui permet d'étendre ton scope de test assez, de façon conséquente. Un truc tout con, par exemple. Hein. Si tu as une code base dans laquelle le datetime.now n'est pas moqué, c'est-à-dire que tu n'as pas mis de idatetime pour obtenir ta date, donc tu ne peux pas moquer le datetime. Tu as deux alternatives. Soit tu utilises le truc de Microsoft qu'ils ont fait à un moment, les shims qui permettent de remplacer les éléments du framework avec des datetime que tu personnalises, mais alors c'est une misère sans nom. Ou alors tu utilises le intersection et tu dis cette date doit être équivalente à celle-là à plus ou moins 3 secondes, et du coup t'es tranquille au lieu d'aller faire des soustractions dans ton code et tout ça. Enfin, t'as tout un panel de fonctions dans Affluent Assertion qui te permettent de faire que tes tests sont plus flexibles à écrire et plus beaucoup plus faciles à asserter.
Par contre,
je trouve qu'il y a des petites problématiques dans les méthodes disponibles. Par exemple, là où c'est vraiment, il y a deux sujets que je trouve vraiment pas clairs dans les assertions. C'est les assertions sur les strings. Tu sais pas si elles sont ordinales, en your case, whatever. Là. Et puis, je crois qu'il n'y a même pas la possibilité vraiment de changer le behavior. Donc, ça, c'est un des problèmes. Et l'autre, c'est sur les collections. Dans Fluent Assertion. Ouais. Alors que les autres, c'est souvent juste un argument de plus. Assert.equal, expected, actual, string comparison. Puis, c'est simple. Et sur les collections, je ne sais jamais dans quel ordre, enfin quelle méthode utiliser pour dire ça dans cet ordre-là avec ces arguments, ces conditions-là.
Alors moi, j'ai codé des tests, hein, justement pour vérifier, parce qu'il y a un moment, je ne savais plus. Et je me suis retrouvé effectivement à des tests de contrôle du test, parce qu'il y a un moment, il y avait des choses en fait qui me semblaient étranges. Toi, tu l'as eu sur les listes. Moi, j'ai apprécié, par exemple, au niveau de tout ce qui est énumération, de pouvoir dire qu'il faut qu'il y ait effectivement tous les éléments d'une énumération, qu'elle soit présente dans l'autre, mais pas forcément dans le même ordre. Des fois qu'on autorise le fait que ce soit inversé, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de customisation qui est disponible. J'ai cru comprendre sur les strings, c'était présent aussi. Par contre, il y a certaines méthodes, par exemple les méthodes qui permettent de vérifier les équivalences de deux objets, où des fois il faut vraiment les vérifier parce que finalement, ça ne va pas tester en profondeur. Ça va descendre jusqu'à un certain niveau, et ça ne va pas vérifier au-delà. Donc il y a de la customisation, c'est possible. Par contre, pareil, là, on sort un petit peu du côté, on va dire, le petit outil qui est là pour nous aider, parce que là, c'est d'un coup d'un seul. On met les mains dans le cambouis et honnêtement, on va profond. Ouais, non, c'est pas... Moi, j'ai trouvé que c'était pas joujou. Hein, c'est...
Et dans les autres librairies qui nous faciliteraient la vie, vous avez d'autres exemples?
Ah, moi, j'ai trouvé le Saint Graal il n'y a pas longtemps. Alors, c'est dommage, il y a un certain Christophe qui n'est pas là. Il y a une librairie qui s'appelle BUnit. Alors B pour Blazor. Alors là, c'est la crème. La crème de la crème. Vous faites du Blazor, il vous faut cette librairie-là.
L'intégration. Les tests unitaires des composants.
C'est... Ah oui, alors ça, c'est une tuerie parce qu'on teste vraiment les composants. On peut tester aussi les pages Blazor. Donc ça va vraiment très loin. On va pouvoir simuler un contexte parce qu'initialement, ça nous permet d'avoir un contexte de Blazor, de pouvoir lui demander de nous créer une instance de notre composant. Lui demander de rendre ce composant. On va même pouvoir lui demander de changer des propriétés de ce composant et de voir les différents rendus, savoir s'ils évoluent, rendre un nouveau le composant. Là où ça va super loin, c'est qu'on va aussi pouvoir, alors là, on part dans la quatrième dimension, on va pouvoir moquer les comportements de JavaScript. On va clairement pouvoir dire, il faut à tout prix que mon composant, il appelle telle ou telle méthode et on va pouvoir vérifier qu'il a appelé telle ou telle méthode JavaScript. On va aussi pouvoir, effectivement, en termes de mock, lui dire telle méthode JavaScript, finalement, t'a renvoyé ça, ou elle t'a déclenché telle exception. Ça va super loin. Et BUnit, c'est, si vous ne connaissez pas, vous faites du Blazor. Moi, je l'avais déjà dit il y a quelques temps, c'est moi, j'ai un projet aujourd'hui, il est couvert à 97% au niveau test unitaire, parce qu'il y a BUnit qui est dedans.
Bah après, il faut faire du Blazor.
Il faut faire du Blazor.
Sinon, il y a un outil, moi, j'ai jamais encore.
Parce que moquer du JavaScript, c'est bien, mais à un moment, ça fait partie de ton application aussi, il faut le tester, quoi.
Bah là, effectivement, tu vas te retrouver des frameworks de test unitaire pour JavaScript. Heureusement, ouais, ça donc, existe aussi.
Tu testes ton application au complet.
Voilà, end-to-end, ouais.
Il y a un autre framework qui s'appelle Verify, qui permet de faire du snapshot testing. Alors moi, je n'ai jamais utilisé, j'ai juste regardé un peu par intérêt. J'en ai pas vraiment eu l'utilité. Est-ce que vous avez déjà utilisé? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais. On a un peu utilisé. Alors, ce n'est pas quelque chose que moi, j'apprécie des masses, pour être honnête. Ce que j'aime pas, c'est le fait que ça crée des fichiers à côté, dans cette stratégie-là. Par contre, si tu regardes, on a commencé à étudier une autre stratégie, nous, en interne, là, donc il n'y a pas de projet open source à recommander, mais tu trouves des stratégies similaires en JavaScript, notamment, où ils sont pas, les snapshots sont inline. C'est-à-dire qu'en gros, là, au lieu d'écrire le fichier à côté, il te remplace directement dans ton code la string qui correspond au contenu du fichier. Surtout que maintenant, avec la nouvelle fonction, la nouvelle syntaxe pour les strings, là, en C# 11, bah, c'est ouais. plus agréable, enfin c'est moins gênant de l'avoir directement dans son fichier aussi. Donc pour certains tests, où tu as vraiment envie d'acc... En fait, tu as une approche un peu différente quand tu fais ça, parce que eux d'écrire ton code et c'est que ton test il soit en bataille avec ton code, parce que tu es en train de modifier une string pour un utilisateur, tu vois, tu as un commentaire que tu écris dans un quelque part. Mais en fait, là, tu vas modifier ton code, tu vérifies si le test qui est modifié correspond à ce que tu veux, parce que tu as le diff, si ton test est versionné, bien évidemment. Mais comme ça, tu vois, ça permet d'itérer potentiellement plus rapidement sur certains types de tests. C'est pas, faut pas globaliser ça partout, là. Mais certains types de tests, ça peut être intéressant et simplifier pas mal l'écriture, quoi.
Ouais, moi, j'en aurais vu l'utilité parce qu'on génère des fichiers XML qui peuvent être gros, qu'on va vérifier. Alors, on les vérifie à un autre niveau. Mais pour certains tests, j'aurais bien voulu vraiment aller même dans le XML lui-même, quoi. Et après, le problème, c'est ce que j'avais trouvé. Alors, c'est possible que ça existe, mais je n'avais pas trouvé à l'époque. C'est, tu sais, quand tu as des trucs qui sont... que tu reproduis pas. Par exemple, quand tu crées une instance, par exemple, tu peux avoir une idée, un UUID qui est créé ou un truc comme ça. Donc là, forcément, tes deux objets vont être différents, quoi.
Bah, faut garder que ce que tu as vraiment envie de comparer. C'est-à-dire que l'objet, ce que tu vas mettre dans ton snapshot, c'est vraiment les propriétés que tu veux comparer.
Alors,
définir les propriétés que tu veux snapshoter de l'objet.
Bah, au pire, tu fais new, accolade, les propriétés qui t'intéressent, là.
D'accord.
Tu peux recréer un objet. Okay.
Hein. Ouais, exact. Bonne idée. Ouais.
Sinon, il y a
un objet anonyme, parce que tu n'as même pas besoin d'avoir un vrai type pour comparer avec un autre objet. Parce que de toute façon, ce que tu vas mettre dans ton verify, là, il va te sérialiser de toute façon, que ce soit un objet anonyme ou n'importe
exact,
quoi.
Exact.
Ouais. Vous avez une vieille techno qui est présente dans OpenTest depuis le début, qui permet de faire ça, qui permet de faire du XPath sans écrire du XPath. Ça s'appelle VB. C'est vrai que c'est
une technique. Tu fais ton projet en C# et tes tests en VB.
Écoute, nous on fait le contraire, mais on passe la parenthèse. Mais moi j'ai connu l'époque où effectivement on a Link qui a débarqué dans .NET, et il faut savoir, ça n'a toujours pas été corrigé, qu'on a toujours été mieux doté côté VB pour VB, Link. Oui. Sachant que VB, bon, bah, c'est mort, hein, c'est clair, il faut l'admettre maintenant. Microsoft l'a clairement annoncé le mois dernier, je crois. Mais là, clairement, on peut effectivement faire le genre de choses que tu veux, Laurent, faire des tests. Mais écrire en VB, finalement, le XML qu'on attend, en retirant les éléments, par exemple, qui vont être génériques, en faisant comprendre que ce sont des variables, et pouvoir faire le test pour l'instant. Et VB, c'est le faire. Et ce qui est très fort, c'est que pour VB, ce sont des objets.
Ouais, je me rappelle de cette notation.
C'est très très puissant.
XML en VB.
Ouais, c'était très peu utilisé. Moi, je l'ai utilisé au tout début parce que c'était la hype de VB. Il y avait enfin une nouvelle fonctionnalité en 2008 pour VB. Wouhou, c'est la fête.
Et oui, que C# n'avait pas en plus.
Voilà, en plus. Et puis que C#, on espère, aura un jour parce que. Ouais. Mais bon, plus personne s'intéresse au XML. Donc je pense que ça sert plus à rien.
Personne fait du XML, tu sais que ça arrivera pas. Puis surtout, tout le monde, s'ils disent, OK, on fait du XML, OK, allez, c'est quoi le prochain langage que tu vas commencer à demander en BD dedans aussi?
Je rappelle qu'ils ont appelé WinForm. Hein. C'est à cause de WinForm qu'ils ont appelé VB aussi au passage. Hein. C'est une roue qui tourne. Hein.
Bien. Vous aviez une autre librairie sous le coude?
Ouais, moi j'en ai une qui est bien utile quand tu fais des tests d'intégration du end-to-end. Enfin, il y en a deux en fait. Tu as les tests containers sous Fluent Docker. L'idée, c'est de pouvoir, depuis ton code, exécuter un container qui va te monter une base de données, typiquement, pour ton test d'intégration et qui va permettre de la dropper automatiquement par code. C'est un must-have quand tu fais du end-to-end automatisé à 100% ou de l'intégration.
Ah, moi, je le fais avec le... Pardon. Ben, j'ai perdu son petit nom. SQL LocalDB, en fait. Ça fait des années que je fais du SQL LocalDB pour toutes ces choses-là.
Ouais, mais le problème avec ça, c'est que tu vas avoir une base de données qui ne sera pas similaire à celle que tu auras en prod. Là, tu peux très bien monter une image SQL Server le temps de ton test, qui va ressembler, tout du moins sur tout ce qu'il va y avoir comme feature dans SQL Server et le comportement. Tu vas prendre la dernière image 2022, par exemple, qui va ressembler à ce que tu pourras avoir en prod. Avec LocalDB, tu pourras avoir des petites blagues, parce qu'il y a des comportements, des trucs qu'ils ont fait spécial pour les devs ou des features qui ne sont pas 100% pareils.
J'aimerais bien que tu me donnes la liste parce que moi, je l'utilise avec des features qui sont quand même vachement tordues, comme toute la partie broker de SQL Server, et sans problème. Donc, j'aimerais bien effectivement voir les parties sur lesquelles il faut être prudent, parce que jusqu'ici, j'ai jamais eu de problème avec cette approche, mais plutôt bien servi. Donc, s'il y a des trucs à se méfier, j'aimerais bien les connaître.
Alors là, je pourrais pas te dire comme ça de tête, mais en tout cas...
Non, mais après, en off, hein, parce que ça, faut que tu les balances. Non mais parce que c'est vrai que ça fait des années, on a tous eu un moment ces problématiques du Quantitative Entity Framework, les fameux tests in-memory qui finalement sont des trucs insane, qui ne servent pas à grand chose, contre des vrais tests sur une base de données, avec des vraies contraintes. Moi j'ai eu le cas effectivement SQL LocalDB, au début on ne pouvait pas faire grand chose, et puis quand on a pu récupérer des vraies bases de données, les prendre, les déplacer, les tester avec SQL LocalDB, c'est devenu quelque chose de très sympa, quoi.
Et tu en avais une autre, Christophe ?
Alors, c'est pas un package, c'est un outil. Il s'appelle Ncrunch et ça, je peux pas m'en passer. Ah, Ncrunch, alors, c'est pas possible.
Alors ça, moi j'ai sur mon blog.
D'abord, juste avant, qu'est-ce que c'est ?
C'est un runner de test automatisé. En gros, tu vas installer ça comme une extension dans ton Visual Studio et chaque fois que tu modifies du code qui est impacté par un ou plusieurs tests, et attention, il analyse le code IL pour savoir ça, il va faire tourner tous les tests en relation pour savoir si tu as cassé quelque chose ou pas. Donc, quand tu as une suite de tests qui est câblée sur ton code et que tu fais des modifs à la volée, il te fait automatiquement runner les tests, dépendant de ta config, bien sûr. Après, tu peux être plus fin dans ton truc et il va te dire, attention, tu as pété des tests.
Et le live test unit de...
Ouais, non, mais non. Celui de Visual Studio, c'est live testing, ouais, non, carrément pas. Niveau perf, déjà, t'es bien en dessous.
Et vous avez regardé le dernier Vous avez regardé le dernier aussi?
Ouais, ils l'ont amélioré. Alors, niveau perf, ils sont un peu améliorés, mais alors, par contre, niveau feature, t'as rien à voir. Hein. Ncrunch, c'est à des années-lumière. Depuis le temps qu'ils sont là, ils ont beaucoup plus peaufiné le truc.
Le live unit testing, c'est que dans la version Enterprise, je crois.
Ouais.
C'est même pas dans la Pro, tu vois, donc c'est pas grand monde
après,
qui fait ça.
Après, partant de là, Ncrunch est sous licence aussi, donc tu dois de toute façon mettre la main à la poche. Mais...
Ouais, mais peut-être moins.
Moi, j'ai fait. j'ai une vidéo sur mon blog à l'époque où j'ai testé Ncrunch. D'ailleurs, j'avais un testimonial sur leur site. J'ai arrêté de l'utiliser pour pas des bonnes raisons. Mais en fait, moi, l'expérience que j'ai eue avec ce tool, c'était si tu fais du TDD, franchement, c'est bluffant, quoi. Il y a un détail, alors je ne sais pas, Christophe, peut-être tu as vécu ça aussi, mais moi, il y a un détail, parce que les outils LifeTest de Microsoft, je ne sais pas si c'est comme ça, en tout cas, les outils dans ReSharper ou Rider, tu dois déclencher tu dois donner un event pour déclencher les tests, pour dérouler les tests, en fait. Et cet event, ça peut être que juste CTRL-S pour sauver le fichier. Et juste ce petit truc de faire un CTRL-S, moi, ça me sort de mon flow. Et alors qu'avec Ncrunch, en fait, je tapais mon code, j'avais ma fenêtre de test à gauche, ma fenêtre de code productif à droite. Tu vois les trucs qui avancent, tu n'as plus besoin de réfléchir à autre chose. Tu codes, tu n'as plus ce truc de sauver ou de lancer ton test et tout ça. Et ça, pour moi, ça faisait une grosse différence, je trouvais.
Tu peux le configurer en fait. Tu peux configurer Ncrunch pour dire écoute, bonhomme, t'en porte pas, calme-toi un petit peu, ne fais tourner les tests que quand je sauve, parce que sinon tu mets ma machine à genoux, ce qui est possible dépendant de la config. Mais sinon, oui, en fait, c'est en live. C'est au fur et à mesure que tu codes, dès que ton code est compilable, il y va.
Ouais, mais moi, j'avais trouvé ça super, super, super bon. Et je pense que tu peux aussi limiter. Tu peux dire, ouais, comme tu disais, il lance que les tests dans un set.
Alors, en fait, tu as plein d'options de config et la config par défaut, il va te dire si le code IL qui correspond à ce code-là est touché par un ou plusieurs tests, je vais faire tourner cette suite de tests. Enfin, pas toute la suite, mais vraiment que les tests impactés. Et tu as des pastilles dans la marche qui te disent de suite si c'est bon ou pas.
Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur la unit testing dans les dernières montures. Je pense qu'il y en aura encore d'autres. Parce qu'ils se sont rendus compte, effectivement, à un moment, on consommait beaucoup sur nos disques. Maintenant, on essaie de faire attention à nos machines. C'est vrai que la unit testing, à ce niveau-là, il tapait tellement au début. Moi, j'avais une machine, en fait, j'avais désactivé parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'activaient au démarrage de Visual Studio. Donc, on ouvrait la solution, ça lançait les tests unitaires alors qu'on n'avait encore rien fait. On voulait juste ouvrir et consulter 2-3 bouts de code. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités de la live noise testing qui sont apparues justement pour filtrer les tests qu'on exécute, filtrer les projets et interdire le lancement automatique. Et je pense qu'ils vont encore rajouter parce qu'il y a du boulot à faire, quoi.
Ouais, ils sont pas au niveau, ils sont pas au niveau du tout. Par contre, moi, j'ai un peu peur des trucs de test quand Microsoft emmène en Visual Studio, parce que je sais pas si vous avez passé ça à un moment, mais avec VS 2015, si je me souviens bien, ou peut-être 2013, ils avaient fait un truc débile. Clique droit sur ta feature, générer les tests unitaires. Et du coup, oui. Le truc, il t'analyse ton code, il te fait, tiens, je vais te générer des tests. Ça marchait que pour la calculatrice, en fait. Hein. Voilà, A plus B, et là,
il te faisait... Ça a disparu, hein. Ça a disparu.
Ah ouais, bah, tu m'étonnes.
Bah, par contre, il y a toujours le ajouter test. Juste ajouter un pauvre test, mais ça a disparu.
Nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est dans mon équipe, là, j'ai un de mes collègues, Martin, qui est un tchèque. En fait, on a fait. On a étendu Rider et ReSharper avec un plugin qui est dispo, hein, qui est open source. Enfin, il. J'ai rien à voir. L'idée était. D'une autre, enfin peu importe.
Ouais.
Et en fait, ça permet de naviguer de ton test à ton code productif et vice versa. Et si t'es dans une classe productive et que t'as pas de test, il va créer ton test dans tes classes de test avec un template. Il va pas te générer tes méthodes de
test. C'est un mapping 1-1 entre tes tests et ce que tu testes.
Ouais. Ouais, ça. Et après, tu peux. Je pense pas qu'il l'a étendu avant. On pouvait faire avec avoir des espèces de règles et reconfigurer un peu ça. Mais là, je pense que c'est effectivement un à un encore.
Ouais, mais là, j'ai connu un gars qui était malade du T4 et qui, dès qu'il y avait une nouvelle classe qui apparaissait dans le projet, en fait, il y avait du T4 qui tournait et qui allait générer une classe avec des throws, not implemented exception, not implemented. Pour forcer les développeurs à coder des tests unitaires, c'était totalement imbuvable. C'était un véritable cauchemar. C'était désactivé au bout de 15 jours, hein, ce que personne n'en pouvait.
Ouais, mais ça, tu vois, c'est vraiment. Moi, c'est le genre de test où. Tu vois, cette automatisation-là, pour moi, il y a un problème au point de départ. C'est ton code, enfin, à moins que tu sois vraiment sur une librairie et que tu testes toutes tes méthodes publiques, ça peut être un key use case, mais si tu es sur une application, tu testes pas chaque méthode a pas besoin d'être testée, en fait. Et tu testes un scénario, tu testes quelque chose et tu n'as pas forcément ce lien 1-1, forcément, quoi.
Ah ouais,
l'automatisation de la création du template de test n'est peut-être pas une bonne stratégie.
Non, c'est vrai. Et je suis complètement d'accord. Et c'est des trucs aussi que tu peux t'imaginer quand tu apprends sur... Donc là, le truc que je partageais, ça a 11 ans, c'est ça. Mais les tests, on utilise ça depuis au moins 15 ans. Et ton approche et ta compréhension, elle évolue dans le temps. Et donc effectivement, oh, oui. Nous, c'est des trucs qu'on avait au départ. Et qu'on fait moins maintenant. Mais il faut quand même encore discuter avec les gens pour justement faire monter ces mentalités-là et ces compréhensions-là. Et certaines personnes ont besoin de faire leur propre expérience aussi là-dedans pour comprendre ce genre de choses.
Tu vois, un autre point, moi, où j'ai beaucoup évolué aussi au fur et à mesure du temps, c'est plus avoir peur de dire, bah là, mon projet de test, bah, tu vois souvent des gens qui vont faire, ah, j'ai ma classe, bah, je vais créer mon test pour cette classe-là. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur de créer, entre guillemets, une infrastructure dans ton code. Là. Je ne parle pas d'infra avec des serveurs et autres, mais dans ton code, là, de créer un bout de code pour permettre de piloter ton application aussi. C'est quelque chose de réutilisable un peu dans tous tes tests. Et moi, souvent, l'exemple que je donne pour ça, c'est Chromium. C'est l'appli Chromium, donc les browsers Chrome, Edge, etc. C'est, ils ont créé, pour pouvoir instrumenter l'application et la tester, ils ont quand même fait un protocole à côté complet, là, qui maintenant est aussi une fonctionnalité, donc qui sert à d'autres. Mais au point de départ, ils ont quand même implanté un protocole complet juste pour pouvoir piloter leur application quoi, et faire des tests automatisés. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre du temps pour se dire quand je vais tester mon application, qu'est-ce que j'ai besoin d'implémenter pour réussir à la tester, etc. Là, et ça peut parfois être presque un mini-projet dans le projet, quoi, selon la complexité de l'application.
Je sais que Patrick de NDepend, c'est un grand fan de ça, donc ça aurait été bien de l'avoir aussi.
Bon, de toute façon, vous m'empêcherez pas de faire F5.
Et s'il te plaît, sors pas le doute là.
Bien, bah écoutez, merci pour toutes ces informations sur les tests unitaires. Bah écoutez, je vous remercie et puis à une prochaine fois. Ciao tout le monde.
Merci.
Salut. Ciao.
Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée ou nous contacter sur Reddit ou via Twitter @devdevdev.net. Portez-vous bien et rendez-vous au prochain pull request.